Mola Archives Sonores.
JB, donc, je ne suis pas certain qu'il soit indispensable de te présenter à l'assistance de façon trop précise. Ta renommée est quand même depuis longtemps établie à Bordeaux. Et donc, je passerai directement aux commentaires, aux quelques commentaires que je pourrais avoir envie de faire à propos de l'ouvrage que tu nous as proposé récemment. Tout d'abord, te remercier pour la magnifique citation inaugurale. « Toujours mes nuits tant que je ne te vois, toute nuit le jour le plus clair quand je te rêve. » Il me semble que cette citation ouvre admirablement ton propos qui va beaucoup s'appuyer sur le rêve comme tu l'as déjà beaucoup écrit. Et nous savons tous combien c'est quelque chose à quoi tu es attaché, au point même que tu as, par endroit, tu indiques dans le livre que tu nous as proposé la façon dont tu peux prendre appui ou tu comptes prendre appui sur le rêve, tu comptes prendre appui sur le rêve pour sortir d'une difficulté avec un patient. J'ai été tout à fait saisi par cette confiance que tu fais dans cette activité nocturne et qui me semble tout à fait souhaitable et qu'il est parfois difficile de pratiquer, en tout cas pas aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter. Donc tu nous invites dans ton univers qui débute de curieuse façon puisque tu nous proposes le désordre à son comble, où se rencontrent les éléments de ton histoire, ton aventure psychanalytique ou avec la psychanalyse, ton indéfectible attachement à la chose écrite et l'importance que tu accordes aux amitiés et bien sûr, last but not least, aux amours. Dans ce nouveau recueil qui vient en écho au précédent « En marche des jours », tu fais la part belle aux rêves et dans l'un des textes confie ton espoir qu'une difficulté avec un patient puisse être résolue, c'est ce que je viens de dire, donc je n'insiste pas davantage. Donc un très bel exemple de la confiance inébranlable que tu as dans le rêve et dans sa puissance d'inspiration. Tu nous fais ensuite part de ton désaccord avec Épicure, en affirmant « il existe un travail interne de la mort » comme il existe un travail interne lui aussi des rêves. Ta clinique prend aussi d'autres appuis dans la littérature, notamment sur les écrivains qui viennent en nombre à l'appui de celle-ci, accordant une voix égale aux littérateurs, souvent plus pertinents que les psychanalystes, et de nous faire connaître certains de tes préférés que je vous laisse découvrir dans le livre que vous parcourrez ou que vous lirez. Le registre change avec l'évocation du deuil de Barthes et celle de Paris occupé, qui conduit Ernest Jünger à évoquer des régions oniriques tout à fait inconnues, auxquelles tu opposes le journal d'Ellenberg, animé par bien d'autres préoccupations ô combien plus tragiques. Viennent ensuite les rêves anonymes, recueillis par Charlotte Bérard, et ceux recueilli par Jean Cayrol, et toi de conclure à l'invasion de l'espace du rêve, le plus privé qui puisse être au cours des années de la guerre et dans les camps de concentration. Il y a d'ailleurs dans ce chapitre une très belle notation à propos de Jean Cayrol, quand il indique la certitude qu'il avait de revenir des camps du fait même d'avoir rêvé la nuit précédente le bleu des deux mains de sa mère, qu'il a entendu et perçu, compris comme un signe qui lui était fait de façon tout à fait, on pourrait presque dire, magique, ou trouverait le mot qui peut convenir davantage à cette chose. Cette séquence de Jean Cayrol a produit sur moi un effet indéniable, en raison de l'écho qu'elle offrait à une situation clinique récemment rencontrée, celle d'une femme dont l'un des trois enfants est mort au cours de l'été dans des conditions mystérieuses et qui venait me faire part de son irrésistible attraction pour la mort et sa conviction qu'elle ne parviendrait pas à neutraliser ce mouvement qui est celui de la position mélancolique, d'une position mélancolique évidente dont j'avais rarement entendu la puissance jusqu'alors. Ce court texte m'a beaucoup impressionné et a induit en moi une sorte de métamorphose de la lecture que j'ai pu faire de ton livre, qui, en beaucoup d'endroits, se montre tout à fait élégant, intelligent, bien sûr, plein de notations d'une sensibilité très fine, et un repérage, au fond, de tout ce qui pourrait, tout ce qui peut venir ou appartenir au registre du mortifère. Ce qui me trouble, c'est la façon dont, à partir de cette lecture, il y a quelque chose qui s'est transformé et qui m'a amené à penser à ton texte, qui est par moments plein de plaisanteries, de jeu, de gaieté, de légèreté, et qui est tout sauf lourd, une sorte de bruit de sourdine mélancolique que j'ai rencontré dans un assez grand nombre de textes et qui m'apparaît peut-être une sorte de soubassement très important de ton développement. Et c'est ce à quoi j'ai été le plus sensible parce que, juste probablement en raison de cette rencontre ou de cette coïncidence entre cette rencontre clinique et la lecture de ton livre qui ont été pratiquement concomitantes. Donc je préfère m'arrêter là pour ne pas empiéter sur la lecture que vous ferez de ce recueil de notations très variées et dont certaines sont très éclairantes. Il y est question du rêve, bien sûr, mais aussi de la souffrance, de la mort, de l'éloignement, de la disparition. Et l'art de JB est celui de la suggestion. Il intrigue, stimule et laisse au lecteur le soin de penser ce qui lui convient ou ce qui lui vient. J'ai indiqué précédemment combien le texte des récits de rêve avait influencé conjointement avec cette perception clinique l'ensemble du recueil, donc que j'entends aujourd'hui ou que je ressens, dont je me souviens comme une variation mélancolique, discrète, choisissant une grande variété de points de vue et invitant, comme tu le fais, à saisir l'autre côté des choses. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci. Écoute, tu as parcouru un peu l'ensemble, je ne sais pas trop quoi reprendre. Mélancolie, disons que la mienne est peut-être celle de tout être humain. Et je la qualifie de douce. C'est un peu un oxymore, une douce mélancolie. Bon, bien, ça n'a quand même rien à voir avec la vraie, la profonde mélancolie qui saisit complètement le sujet, qui est la proie de l'objet perdu et qui peut se conclure de façon dramatique par un suicide. Donc ma mélancolie, s'il y en a une, et celle qui est présente assurément dans ce livre, est une certaine douceur. C'est pourquoi elle n'est pas contradictoire avec, que tu as bien voulu en passant indiquer, qu'il y a des moments plutôt drôles, plutôt légers. Et tout ce petit livre, au fond, je suis très attaché toujours au mot « entre », hein, entre le rêve et la douleur, etc., se situe, si on peut dire, entre la... Je dirais plutôt entre la mort et la vie que entre la vie et la mort. Il y a tout, à mon sens, hein, j'espère que tu l'as senti aussi, un appel à, je n'ai même pas besoin de l'appeler, mais un vrai plaisir de vivre, un vrai goût du nouveau, notamment lié à la naissance d'un enfant, c'est ma petite fille pour la nommer, qui s'appelle Alice, et tout aussi entre cette invention de l'enfant, cette invention de la vie et, en effet, la perspective plus ou moins lointaine de la mort avec ce que ça peut engendrer de mélancolie. Peut-être, si je peux me permettre, pour montrer cette oscillation, c'est la fin, C'est le dernier chapitre, mais qui vous dira, développera un peu ce que je viens de vous dire. Deux images opposées me restent du rêve de cette nuit, celui de la petite Alice. Elle prononce ses premiers mots. En réalité, elle en est encore loin. Et c'est à moi qu'elle les adresse. L'autre image est celle de Norbert, un grand ami à moi. Il sait qu'il va mourir toujours dans le rêve. Il sait qu'il va mourir dans 2 jours. Et ces 2 jours, il veut les passer en ma compagnie. Il me demande de faire laver ma voiture. Voiture lavée de toute tache, de toute faute. Voiture impeccable, nettoyée des auto-reproches que je m'adresse pour n'avoir pas été assez proche de lui quand il se mourait à l'hôpital. Norbert, converser, rire ensemble des autres de nous-mêmes, nous disputer, non, c'est fini. Alors je rêve souvent de lui, une manière de lui et de me prouver que l'échange continue. Alice, naissance du langage, elle me parle, je lui écris en lui dédiant ce livre. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est pas, je n'aimerais pas trop qu'on mette l'accent sur la coloration, à mon avis, discrète, mélancolique. Pour moi, ce n'est pas du tout un livre de mélancolie. C'est un livre d'un certain bonheur, voilà, je dirais. Bon, autre chose, la citation, quand tu as dit que ça servait les quelques vers que tu as cités, il faut peut-être dire qu'ils sont d'un sonnet de Shakespeare. Mmh. Un sonnet de Shakespeare, le sonnet 43, traduit par Yves Bonnefoy. Je ne sais pas si tu l'as cité en entier. Toujours mes nuits tant que je ne te vois, toute nuit le jour le plus clair quand je te rêve. C'est le sonnet qu'il adresse à la personne qu'il aime. Mais à travers lui, c'est tout ce qui surgit de ce que Bonnefoy justement appelait l'arrière-pays, qui est l'arrière-pays nocturne. À quoi font écho aussi ces vers de Claude Roy, qui était, je l'emploie aussi un imparfait, parce qu'il est beaucoup question évidemment d'amis disparus. À mon âge, beaucoup des amis disparaissent. Et donc ces vers, voici, le songe qui m'invente a les yeux grands ouverts et je ferme les yeux pour regarder le monde. Les yeux clos. Donc c'est plutôt un éloge de la nuit, beaucoup, je ne crois pas que je raconte quelques rêves, mais très peu, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les récits de rêves. Il n'y a guère qu'un analyste, parce qu'il pense que ça s'adresse à lui pour les supporter, s'y intéresser. Mais autrement, raconter un rêve, ça n'intéresse vraiment pas grand monde. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'interprétation de rêve, aucune, mais il y a, comment dire, là aussi, c'est entre le rêve et la réalité, toujours sur l'antre. Comme je disais tout à l'heure, entre la mort et la vie, entre le rêve et la réalité, il y a pas mal de passages. Un de mes maîtres, Daniel Lagache, que j'avais en supervision, en analyse, me disait, parce que souvent, à tort, même les jeunes analystes disent, non, ils me racontent des faits, ils me racontent des événements de la journée, c'est purement, c'est juste, si on ne dit pas, c'est anecdotique, comme si le rêve, lui, avait un statut privilégié par rapport à ça. Et Lagache me disait, écoutez, un récit d'un événement du jour comme si c'était un rêve et un événement et un rêve comme si c'était un événement. Ce qui me faisait penser à un mot que j'ai souvent cité de Victor Hugo dans Chose vue. Chose vue, c'est un recueil. Victor Hugo est là comme un reporter, un journaliste qui relate donc les événements qu'il voit dans la vie quotidienne. Et les rêves, il en rapporte quelques-uns, il appelle ça des événements de la nuit. Donc les événements, c'est ce qui arrive. Donc événements du jour, événements de la nuit, il ne faut pas les opposer. La nuit n'est pas l'envers du jour. La nuit n'est pas l'envers du jour. Les deux s'interpénètrent. Et certaines, on peut dire, anecdotes que je rapporte dans ce petit livre pourraient être... Vous seriez quelquefois bien en peine de savoir si c'est un récit de rêve ou un récit d'un événement diurne. Vous verrez. Dernier point, alors que tu as soulevé, c'est peut-être en effet ce qu'il y a de plus émouvant, parce que ce n'est pas de moi, dans ce livre, ce sont les rêves de Kérol. Je les ai mis en relation avec les rêves qu'a relevé une journaliste allemande qui s'appelait Charlotte Berhalt, recueil de rêves qui a été publié il y a plusieurs années chez Payot et je crois repris. Préfacé d'ailleurs par notre ami Gantret, qui était récemment, je crois, l'hôte de cette maison. Et elle avait interrogé donc des habitants de Berlin, et pour qu'ils leur apportent les rêves qu'ils avaient faits. Et ces rêves étaient tous des rêves de persécution. C'était avant qu'on connaisse l'installation des camps, en tout cas pas les camps de camps d'extermination. Et c'est l'espace donc privé du rêve n'est plus un espace privé, ce lieu où quand même on doit pouvoir, on pense que l'esprit peut être libre. Non, le persécuteur est là. Ce ne sont que des rêves de persécution. Donc l'espace de liberté et le secret, l'espace intime du rêve est envahi par la terreur, le monde extérieur représenté par la terreur nazie. Et puis, ayant lu ça, je me suis souvenu que Jean Cayrol avait publié il y a très longtemps, dans les temps modernes, peu de temps après la guerre, des récits de rêves faits par ses camarades de camp de concentration. Et donc, j'avais gardé le souvenir de ce texte, mais sans le souvenir de son contenu. Et je m'attendais donc, en les lisant, à ce que ça soit bien pire que les récits de rêves transcrits par Charlotte Béral. Bien pire, puisque là, c'était la terreur tout à fait présente, hein, et non pas une menace relativement encore vague. Il faut que je vous dise un passage de Cayrol. Oui, ça vient après un chapitre qui s'appelle « Quand la nuit cesse d'être romantique », c'est-à-dire l'éloge des romantiques allemands, les hymnes à la nuit, les novalistes, etc. La nuit cesse d'être romantique. On ne peut plus faire l'éloge de la nuit comme le pouvait le faire le romantisme allemand. Au temps de Nacht ou de Nebel, de nuit et brouillard, c'est plus possible. Donc je me demande à quoi pouvaient-ils rêver dans les camps de concentration tels que les relate Jean Cayrol. Ces rêves concentrationnaires, que sont-ils ? Cayrol, de retour de camp, les a classés sous différentes rubriques. Rêves paysages, rêves d'architecture, de tableaux, de nourriture, rêves de salut. Comme s'il lui avait fallu rescaper du chaos, un chaos aussi organisé qu'inintelligible, donner à sa recension des rêves au moins un semblant de cohérence. Absence de rêves érotiques, il y a plus urgent à satisfaire pour un affamé. D'abord, se nourrir, mais pas n'importe comment, pas d'une soupe infâme. Un ami raconte à Cayrol, avec un luxe de détails inouï, un rive de recettes de cuisine. L'érotisme allait-il se réfugier dans ce gâteau merveilleux, le désir venant en prime se greffer sur la satisfaction des besoins. Le plus étrange, on le trouve dans les rêves à répétition d'une couleur, et le plus effrayant dans les rêves dits de salut. Les couleurs, elles sont un cri face à la mort, le bleu qui protège, le bleu qui dans un rêve est celui des deux mains de la mère de Cayrol, c'est ce que tu citais. J'eus la certitude à ce moment-là que je reviendrai de l'enfer concentrationnaire, dit Cayrol. Le vert, celui des portes qui un jour s'ouvriront, et ce rouge surtout, ce rouge qui explose, concentré d'énergie, rouge des cerises de l'été, rouge du sang qui circule dans nos veines. Autant de couleurs salvatrices dans la nuit noire. Des rêves dits de salut, des rêves projets, il faut pourtant se méfier. Ceux des camarades de Cayrol qui pensaient à leur retour à la vie normale, échafaudaient des plans pour leur avenir, allant jusqu'à dessiner les pièces de leur future demeure, oubliant que leur dernière demeure ne serait pas une sépulture mais un charnier, cela n'allait pas tarder à mourir. Sinistre euphorie des mourants. Rêve d'Allemand ordinaire dans l'attente du pire. Les premiers, ceux de Charlotte Béral. Rêve sans couleur, sans espoir. Rêve de déporter quand le pire est sûr. Donc, curieusement, il y a un recueil des œuvres de Cayrol qui s'appelle Lazare, je crois, qu'il a écrit donc après son retour. Et je n'ai pas trouvé dans ce recueil, peut-être quelqu'un me portera un démenti, le texte dont je vous parle là, qui est paru donc dans les temps modernes en 1945 ou 1946. Tu es passé un peu à travers tout, là, je ne sais pas trop quoi reprendre.
Beaucoup de choses essentielles ont été dites. Et que
peut-être on peut revenir sur certaines d'entre elles, et qu'il est évident que une des questions que je comptais vous poser concernait Jean Cayrol, pour diverses raisons. D'abord parce que il est né ici, rue Vital-Carle, il est mort à l'autre bout, place Péberlan. Et ensuite, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu et beaucoup aimé, tout simplement, et beaucoup aimé. Et donc j'ai été très touché par les pages qui sont consacrées à Jean. Et je ne peux pas vous renseigner sur, ce texte qui ne figure pas dans la réédition des œuvres lazaréennes du Seuil. Il faudrait un meilleur spécialiste de Cayrol. Je peux vous dire qu'il y a un ou deux ans, un universitaire allemand a organisé un colloque Cayrol ici à Bordeaux, et, auquel j'ai eu le plaisir de participer, et qu'au cours de ce colloque, il y a eu une intervention sur le texte concernant les rêves. Mais est-ce qu'on le trouve actuellement ailleurs que dans l'édition originale que vous-même citez tout à fait à la fin de votre livre, et je ne peux pas vous éclairer sur ce point-là. Et je voudrais revenir quand même sur deux ou trois des choses qu'a dites votre ami médecin et que vous avez ensuite reprises et commentées. D'abord sur la mélancolie. Et il se trouve que j'ai récemment écrit quelques lignes sur votre livre dans un grand journal d'information local. Et j'ai hésité à utiliser le terme de mélancolie. Je l'ai quand même utilisé. Je crois que j'ai mis mélancolie sans complaisance ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Ou mélancolie discrète, ou mélancolie douce. Enfin, il faudrait retrouver la... Je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas mentionner la mélancolie. Elle est sensible dans ce texte-là et dans d'autres, n'est-ce pas ? Et dans d'autres.
Mais ça me plaît, ça, oui. Ce que voilà. Vous avez écrit, voilà. Hein, c'est une manière de fantaisie secrètement mélancolique, mais exempte de toute complaisance.
Bon, ça vous plaît ?
Oui,
ça va.
J'accepte. Bon,
d'accord avec toi. Oui, car la fantaisie, elle est en effet très présente dans le livre aussi, n'est-ce pas ? Et alors, la fantaisie et la gaieté, et la joie même, n'est-ce pas ? Quand vous évoquez la Toscane, etc., bon, ça c'est la joie. Et la fantaisie, c'est dans un certain nombre d'épisodes extrêmement cocasses. La dame qui est dans le train, qui est en train de lire avec vraiment une attention pleine de ferveur Paris Match, et qui tout d'un coup repose Paris Match, pour sortir du Lacan, ou je ne sais quoi
Attendez, je vais vous le dire, parce que je m'en connais. Page 49. Enfin, je ne vous lis pas tout le petit chapitre. Dans le TGV de retour de la boule, ma voisine de l'autre côté du couloir ne quitte pas des yeux pendant 3 heures son Paris Match. Voilà. 10 minutes avant l'arrivée, elle ouvre un gros livre, dont indiscrètement, je lis le titre. De Freud à Lacan, du roc de la castration au roc de la structure. Elle ne tarde pas à bâiller. Effectivement, se heurter à un roc puis à un autre ne donne pas à rêver. C'est authentique.
Alors, il y a énormément de cocasseries comme ça. Et quelquefois, elles sont même un peu cruelles. Mais enfin, c'est... Là, vous êtes à Bruxelles. Vous signez vos livres, et tout à la fin de la corvée des signatures, vous n'y échapperez pas tout à l'heure, tout à la fin de la corvée des signatures, une femme me demande de lui dédicacer son exemplaire. Elle me dit qu'elle sort de chez son analyste et qu'elle va très mal. Je m'emploie à la rassurer. Il en est souvent ainsi dans les premiers temps. L'analyse commence par rendre malade.
tout l'enfoui remonte à la surface, etc. Sa réponse, oui, mais moi, cela fait 19 ans que je suis en analyse. Autant pour moi. Donc, oui, oui, il y a tout cet aspect-là, bien entendu, dans le livre, qui vient contrebalancer l'aspect mélancolique ou la gravité, en effet, de certains propos. Moi, j'aimerais que vous nous disiez comment vous travaillez. Parce que, naturellement, ce livre, le titre, En marge des nuits, renvoie, comme vous l'avez dit, directement à un livre précédemment paru, en 2002, qui était en marge des jours. Mais enfin, il est proche de tous les autres, il est conçu à peu près de la même manière que tous les autres. Je note, à propos de l'éloge de la nuit, que quand même, ce thème de la nuit, il est présent dans un certain nombre, et du rêve, oui. Il est présent dans la traversée des ombres, dans le songe de Monomotapa, il est présent dans le rêve de Constantin, je ne retrouve pas le titre là.
C'est dans Le Dormeur Éveillé.
Le Dormeur Éveillé, voilà, Le Dormeur Éveillé, c'est vrai, bon. Donc le thème de la nuit apparaît souvent. Et alors ce sont des petits livres, écrit sous forme de fragments, avec en effet une espèce de fantaisie apparente dans le passage d'un fragment à un autre, d'un récit de rêve au récit d'une expérience qui consiste à regarder une dame lire Paris Match et puis sortir ensuite de Freud à Lacan. Comment travaillez-vous ? Vous évoquez à la fin vos carnets. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de carnet et comment des carnets passe-t-on à un livre ?
Bon, il y a deux choses. Il y a une constance, effectivement, des thèmes qui me sont chers. Bon. On peut même dire que je les ressasse, ou je dirais plutôt que je les reprends d'une façon différente, un peu comme en analyse. Au fond, on dit toujours la même chose, mais par des circuits différents. Hein, ce que mon ami Laplanche appelle la spirale, en s'approchant de plus en plus du centre. Donc il y a une constance des thèmes, en effet, donc le tour du songe, du rêve, de la douleur, de l'enfant, etc. Mais ils ne sont pas tous... Vous me demandez comment je travaille, alors oui. Là, c'est pas vrai, je ne sais pas toujours, je ne travaille pas toujours de la même manière. Par exemple, celui-ci, comme En marche des jours, je l'ai dit clairement, c'est effectivement le point de départ. Hein. Ce sont des notes qu'il m'arrive de prendre dans, ça n'a rien de mystérieux, même si je les appelle mes cahiers privés, c'est pas un journal, c'est-à-dire que je peux passer des semaines, voire des mois sans rien y noter, et puis d'autres, au contraire, tous les jours, j'ai noté quelque chose, soit quand ça m'arrive, une idée, comme on dit, soit une rencontre, soit une citation d'un livre que j'ai lu et que je veux retenir. Au départ, c'était plutôt une sorte d'aide-mémoire que je voulais pour garder comme ça, pour moi, des traces, quand j'arrivais plus à me souvenir de où est-ce que j'ai passé mes vacances il y a 15 ans, je ne savais plus, là, c'est aussi bête que ça, j'avais quand même quelques repères au cas où j'aurais envie de savoir comment s'était déroulé ces dernières années. Donc là, ce sont des petits livres faits à partir de ces notes, mais vraiment à partir, parce qu'après, c'est complètement élaboré, développé, écrit. Mais sous une forme, donc souvent fragmentaire. Que c'est vrai, j'aime bien les fragments, en espérant que reliés les uns aux autres, une sorte de puzzle se dessinera, une image globale apparaîtra. Ce n'est pas simplement un collage de fragments. Donc ça aussi, ça me paraît plus proche de la pratique de l'analyse, qui n'a jamais une vue globale sur une histoire de cas, mais qui va de fragment en fragment, non seulement d'une séance à une autre, mais d'un fragment de séance à un autre fragment de séance, souvent très éloignés l'une de l'autre dans le temps, et tout ça va plus ou moins, peu à peu, dessiner, pas prendre une forme bien harmonieuse et globale, mais peu à peu, quelque chose va quand même prendre une certaine forme, disons. Donc c'est comme ça que je compose ces petits livres.
Pour les autres, ce n'est pas très vrai, par exemple. Je ne vais pas énumérer, parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. J'écris peut-être un peu trop. Un livre comme Frère du précédent, c'était aussi un peu sous forme fragmentaire, mais là, sur un thème bien précis, qui était, je crois que j'étais venu en parler ici, qui était la relation fraternelle, difficile souvent, en tout cas la mienne l'avait été. Et, mais un livre qui était beaucoup plus composé, en tout cas suivait une ligne bien directrice. Hein. Le thème était affiché, si je veux dire. Qu'est-ce qu'une relation entre deux frères ? Sous différentes formes, donc en faisant appel aussi là, à des œuvres littéraires ou à des personnages réels, des couples de frères. C'était une, entre l'essai et le roman, si vous voulez. Enfin, disons plutôt un essai sur le couple fraternel. Le songe, imprononçable, le songe de Monomotapa, d'accord, il y a le mot songe dedans parce que c'est tiré de, c'est sur l'amitié et c'est tiré de ce titre d'une célèbre fable de La Fontaine. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa, l'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Mais en fait, c'est un livre sur l'amitié, c'est un éloge de l'amitié.
Je peux vous couper pour vous demander si vous connaissez le poème de Paul Jean Toulet.
Paul Jean Toulet, oui. Non, mais Benjamin, parce qu'il est drôle, allez-y, je ne sais plus par
quel. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa jusqu'au jour où l'un vint voir l'autre et le tapa. Ouais.
Alors j'étais un peu déçu parce que je croyais que c'était un mot, un contrée imaginé par La Fontaine, comme le Géridamètre de Victor Hugo ou quelque chose comme ça. Et puis, donc, et ça me plaisait bien, parce que je trouvais que ça avait une résonance un peu enfantine, un peu onomatopée, monomotapa, voilà, comme un enfant pourrait inventer ce mot-là. Et puis, mais le livre allait déjà apparaître, c'est sous presse, j'ai, comme ça, par curiosité, regardé dans le dictionnaire, et j'étais très déçu parce que le monomotapa existait. C'était un grand empire africain, au 15e siècle, je crois, qui s'est morcelé ensuite, et le Zimbabwe actuel en est un descendant. Donc le Monomotapa n'est pas une création de La Fontaine, et mon songe de Monomotapa en a pris un peu pour son grade. Donc là, il y a des livres presque toujours sous forme, en effet, de fragments, de petits chapitres, mais certains qui ont vraiment un thème explicite, l'amitié, la fratrie, et d'autres, comme celui dont nous parlons ce soir, qui n'ont pas de thème. Et ça serait au fond au lecteur d'en trouver un. Alors vous, à mon avis, à tort, mais chaque lecteur est responsable de sa lecture, et c'est bien que chacun lise un livre différent, dans lequel l'auteur qui a sa propre lecture aussi. Donc il ne se reconnaît jamais dans la lecture des autres. Donc vous l'avez, vous plus nettement, toi plus nettement, vous plus sensiblement orienté du côté de la mélancolie, mais c'est pour moi, le thème n'est pas du tout la mélancolie. Le thème, s'il y en a un, ça serait, comme je le disais au départ, comment se faufile-t-on entre la certitude de la mort et l'appétit de la vie. Voilà. Comment se ferait-on un chemin à travers tout ça? Et aussi, peut-être un thème sous-jacent, c'est la question de l'identité. Parce que le chapitre que tu as cité, qui est le premier, enfin après la citation de Shakespeare et de Claude Roy, c'est « Désordre à son comble ». Le comble, c'est dans une maison que j'ai à la campagne, c'est le grenier. Et puis, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, il y a un an ou deux de ça, c'était un désordre absolument sans nom, où les papiers s'entassaient, où il y avait une vieille valise contenant je ne savais plus trop quoi, mais qui avait suivi les différents déménagements qu'on a dans une vie, des papiers aussi issus de ma mère, la succession de ma mère, enfin, fouillis sans nom. Et j'étais mettre, je ne sais pas pourquoi, je cherchais là-dedans. Et alors là, c'était non seulement le désordre des papiers, mais le désordre complet d'une vie. Parce que ressurgissaient des choses de toutes les époques, de tous les âges, de mon enfance, de mon adolescence, de plus tard, mêlées aussi bien, ça venait plutôt du côté de ma mère, à des factures d'électricité datant de 1938, enfin vous voyez, des trucs comme ça, c'est bizarre, donc je crois vraiment le désordre complet dans la tête. Donc un peu, où suis-je là-dedans? J'ai quand même fait des découvertes assez intéressantes, j'ai retrouvé des lettres de Max Jacob, où je savais que j'avais rencontré justement pendant les années d'occupation, j'allais le voir à Saint-Benoît-sur-Loire. Je prenais mon vélo, descendais à la gare d'Orléans, j'allais jusqu'à Saint-Benoît. Je ne me souvenais pas du tout des échanges qui pouvaient être les nôtres. Là, j'ai retrouvé quelques lettres de lui, donc ça m'a assez bouleversé, parce qu'il est mort déporté à Drancy. Et des choses comme ça. Alors, plus amusant, j'avais un culot d'enfer. Je me suis aperçu que j'avais envoyé à 18 ans, j'étais en hippocagne, ou en cagne, un roman chez Gallimard, rien que ça, La Sacro-Sainte NRF. Et j'avais complètement oublié, et là, la preuve en était qu'il y avait une lettre de Raymond Queneau, m'en accusant réception, mais c'était assez gentil. J'ai dû en écrire un, voilà, je découvre cette lettre dactylographiée de Raymond Queneau. J'ai lu Les Dimanches Illustrés, ça devait s'appeler comme ça. Et je serais heureux de vous en parler. Pouvez-vous passer mercredi, le 2 décembre, vers 17h, rue Sébastien Bottin, où je travaille maintenant. Mais je dois tout de suite vous enlever l'espoir d'une publication possible chez Gallimard. Mais repentir, ajouter à la main, cette fois, ces mots, pour cette fois-ci. Donc, c'est encourageant, vous voyez, donc, c'est 30 ans après, j'ai pris le temps, et là, j'ai été publié. Voilà, donc là, dans ce chapitre-là, oui, je me pose la question que... Voilà, je m'arrête là, je suis un peu bavard. Je m'écris avec les mots que Guy Goffet prête à son ami, le poète Paul Deroux, « Ma vie, où es-tu ?» Quand on est comme ça, dans ce désordre, dans ce fouillis, où tant d'éléments, souvent anodins, d'autres plus sérieux, du passé ressurgissent, on ne sait plus du tout, mais qu'est-ce que c'est, ma vie? Qu'est-ce que ça a été, ma vie? On perd même son sentiment d'identité.
C'est justement. D'abord, tout à l'heure, vous parliez de la différence qui peut exister entre la manière d'écrire certains livres, ceux qui viennent de vos... Comment les appelez-vous?
Cahiers privés.
Ceux qui sont plus centrés autour d'un thème, celui du frère, etc. Bon. Il reste qu'il y a une profonde parenté entre tous ces livres. Il reste que moi, j'aperçois une parfaite unité dans l'ensemble de l'œuvre. Il reste qu'on pourrait les réunir, même avec les répétitions, les ressassements, tout ça, ça fait partie de Proust, dont il est question, d'ailleurs, dans le livre... répète et ressasse énormément, et les grands écrivains se répètent comme on se répète sur le divan d'un analyste. Moi, je suis très frappé par l'unité de l'œuvre. En revanche, alors, la question que je vous pose, c'est la suivante. Dans ce chapitre, justement, vous exhumez d'une valise tous ces souvenirs, y compris, en effet, des lettres de Max Jacob. Vous dites ceci. « Très jeune, j'étais occupé par l'idée... un bout de papier extrait de la valise poussiéreuse en témoigne de l'unité d'une vie, comme si je pressentais que la mienne allait être discontinue, et effectivement, elle le fut pendant des années. Un temps d'effervescence, sur fond de tristesse, où je me suis cru poète, où j'ai voulu, sans y parvenir, écrire des romans. C'est ce que vous envoyez à Queneau. Un temps où je me suis cru marxiste, un autre où je me suis cru philosophe. Heureusement, je ne me suis jamais pris pour un psychanalyste, ce qui m'a peut-être permis de le devenir. Alors, bon, bravo pour l'humour de la chute. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette vie que vous pressentiez comme discontinue l'a été ou ne l'a pas été? Est-ce qu'elle a son unité, à vos yeux, désormais
Question très, très oui. personnelle.
Oui, oui,
très
oui.
personnelle. J'allais dire peut-être, hélas, oui. C'est-à-dire que le temps passant, hein, cette discontinuité, enfin, il ne faut pas exagérer, j'ai pas une vie. Il y en a quand même de plus discontinues. Mais enfin, c'est vrai que les étapes, là, que je résume brièvement, je les ai connues. Mmh. Donc j'étais longtemps, comme on dirait, à me chercher, disons. Et sans jamais me trouver, en allant un peu dans une direction, puis dans une autre. Et bon, le temps passant, c'est vrai que tout ça, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure du parcours d'une analyse. Ça va un peu dans tous les sens, on raconte ceci, on dit cela. Bon. Et puis tout cela finit par prendre, vous voyez, je l'avais dit avec prudence, je n'aimais pas trop le mot forme, prendre une certaine forme, trouver une certaine unité. Et le patient trouvait une certaine identité qui doit rester fragile, parce qu'une identité trop assurée, je suis ça, hein, étiquetée, ça ne me va pas et ça ne va à personne. Hein. Le moi-je, quoi, je suis moi. Non, tout le, un aspect aussi du livre, c'est la différence entre le je et le moi, une relative stabilité, et le je qui n'est pas un objet, hein, et essaye de se trouver peu à peu. Et donc plus proche d'une certaine vérité. Un exemple, pour prendre un exemple littéraire, vous voyez, Michel Léris, il a commencé par l'âge d'homme, où délibérément, c'est un parti pris, il se considère comme un objet, il se décrit comme un objet, y compris physiquement, et avec sans complaisance, pour le coup, des termes très durs sur son physique, son apparence. Donc il se comporte vis-à-vis de lui-même comme un ethnologue, il était ethnologue, se comporte vis-à-vis d'une population étrangère, qui lui est très étrangère, mais qui va essayer de décrire le mieux possible et de comprendre le fonctionnement. Première étape. Deuxième, donc ça, c'est l'auteur qui considère son moi et l'observe. Deuxième temps, beaucoup plus long, c'est la série de la règle du jeu, J-E, J-E-U, bifur, fourbi, etc., où là, c'est le jeu qui parle. C'est le jeu qui s'énonce. Donc, c'est l'écriture beaucoup plus... dans l'âge d'homme, il classait, oui, il classait même ses fantasmes, le fantasme de Judith et Holofernes, etc., il classait. Là, il se laisse aller à son imaginaire, en le mêlant à des éléments de sa vie, mais on a le sentiment que c'est le jeu qui s'énonce, qui devient sujet de dénonciation, comme dirait l'autre, et non pas un jeu qui observe le moi. Voilà, donc, j'essaye, à mesure de mes moyens, qui sont, je le dis sans coquetterie, qui sont limités, par exemple, malgré mes tentatives malheureuses de jeune homme, je ne peux pas écrire de grands romans. J'essaye de faire que le jeu, J-E, de façon joueuse aussi, s'énonce. Et donc ce sont des livres qui, sans être, je crois, des livres de confidence, sans être encore moins... d'une certaine impudeur, sont des livres d'une certaine intimité et qui, souvent, appellent l'intimité de l'autre, vont vers l'intimité de l'autre. Un peu, là encore, comme on analyse, c'est pas tellement qu'on entend des secrets extraordinaires, hein. Ça arrive, mais que les secrets que le patient ou la patiente n'aurait jamais osé dire à personne. Mais c'est un espace, à la fois, donc, sans contact corporel, mais c'est un espace d'une intimité exceptionnelle, de part et d'autre, comme si chacun laissait transparaître quelque chose de ce qu'il y a de plus intime en lui. L'intime, c'est le superlatif, le mot intime, c'est le superlatif d'intérieur. Voilà, donc ce qui me plaît dans la pratique d'écriture et dans les échos que j'ai souvent, c'est cela. Je me dis, ce ne sont pas des écrits intimes au sens d'un journal intime, mais c'est un écrit où une voix intime s'adresse à quelqu'un dont il va rejoindre peut-être l'intimité.
Vous y tenez à cette distinction entre le je et le moi.
Oui, j'y tiens beaucoup.
Vous y tenez beaucoup. Elle vous vient d'ailleurs, elle vous vient dans la nuit, il me semble, un jour.
Une nuit, oui. Ouais. Non, parce que la nuit, pardon, je vous interromps, parce que quand même, c'est une distinction classique faite par tous
voilà,
les philosophes.
Voilà, et vous racontez ça à un ami qui rigole en disant que tu as découvert ça.
Oui, parce qu'effectivement, voilà, la nuit, ça a une qualité propre au rêve. On a souvent ces sentiments, plus qu'un sentiment, d'évidence absolue. Hein. La présence absolue, ça peut être la présence absolue des êtres aussi. C'est très curieux. Ils sont comme s'ils étaient plus présents, comme sur un mode quasi hallucinatoire, dans l'image qu'on en a en rêve, que dans la vie réelle. Et la même chose pour des pensées, ça nous arrive à tous, des là, c'est génial. Et voilà, le jeu et le moi, mais ça n'a rien à voir. Mais alors je raconte ça à un copain, qu'entrait à l'occurrence, qui me dit, écoute, bravo pour ta découverte. Bon, je dis, mais non, mais c'est pas, je sais que c'est archi connu, mais bon, je connais quand même, j'ai lu Lacan, l'instance imaginaire du moi, j'ai lu ce que tu n'as peut-être pas lu, la transcendance de l'ego de Sartre, bon, je sais ce qu'il en est quand même. Mais là, c'était, je l'ai vu. Voilà, c'était comme l'intuition, et quelquefois, d'ailleurs, ça se donne, et on dit que Poincaré avait eu comme ça une intuition, et que lui, mais souvent, ça s'est maintenu, il a fait une découverte comme ça. Mais plus souvent, au réveil, l'évidence ou l'idée géniale s'évapore, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui m'a pris ? Voilà, mais celle-là, j'y tiens,
voilà.
Évidence voilà. Ou pas, connue de tous ou pas, elle est centrale. Et voilà, monsieur.
Et monsieur, même, vous lui donnez un nom. J'y tiens tant à cette différence entre écrire sur soi, et écrire sur soi, c'est donc le moi.
Oui.
Et s'écrire, c'est-à-dire le je, que j'ai avancé ici et là le terme d'autographie.
Oui.
L'autographie n'est pas un genre littéraire comme le journal intime. Les mémoires, l'autobiographie, l'autoportrait, à mes yeux, elle est à la fois la source et la finalité de l'acte d'écrire. L'autographie.
Alors ça, c'est vraiment la question que j'espérais éviter, parce que j'ai... Non, mais je la mérite tout à fait, elle est justifiée. J'ai imprudemment, et à plusieurs reprises, je vais vous dire comment on me l'a rappelé, avancé ce terme d'autographie dont j'étais assez satisfait. Là-dessus, des amis disent « Ah, il y a quelque chose là, il faut creuser ça, l'autographie, très très intéressant. » Donc on les organise même une espèce de petit colloque intime, on était une dizaine, pour discuter autour de ça, pour que je précise ce qui apparemment était une idée. Fiasco complet, on commence par dire ce que je dis là, c'est, ben, ça n'a rien à voir, c'est quand même différent de tous les écrits justement intimes, journaux, encore plus des mémoires, même des récits autobiographiques, etc. C'est s'écrire soi-même, c'est pas un genre littéraire, alors qu'est-ce que c'est ? Alors on s'embrouille, c'est à l'horizon de toute écriture. Ben alors on dit, au fond, tous les livres, c'est jamais que les formes d'autographie, mais un roman, le romancier s'écrit lui-même, si tu écris, tu t'écris, enfin bref, ça cafouille complètement. Et on devait même faire, un livre collectif sur l'autographie. Et puis, donc, le projet a capoté. Puis, il faut dire qu'il y a énormément... C'est un peu la mode, ça. Il y a des modes, sur les écritures de soi. Enfin, il y a eu 1000 colloques autour des différentes formes d'écriture de soi. Il y a l'autofiction, tout ça, que je crois... Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire, entre parenthèses. Je le dis, bah... Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a l'idée, quand même, que... Non pas pourquoi on écrit, peut-être pourquoi j'écris, d'essayer de me... Soyons plus concrets, vous voyez, ça ne m'intéresserait pas d'écrire des choses que je connais déjà parfaitement de moi, si on peut dire qu'on connaît des choses parfaitement de soi. J'espère toujours que un livre que j'écris va m'apprendre quelque chose, non seulement sur les autres, mais sur moi. Donc, c'est pour ça que c'est différent tout à fait d'un journal intime, où, souvent qui tourne en plus, qui est assez complaisant quand ça n'est pas un bulletin de santé. J'essaye que... Ça me fait un peu prétentieux, mais de laisser... Je le dis aussi souvent, ça, de donner la parole, c'est un oxymore, de donner la parole au non-parlant, à l'enfance. Hein. Celui qu'on définit trop souvent de façon privative. Hein. L'enfance, celui qui est privé de parole. Celui qui n'est pas capable de parler. Moi, je l'entends autrement. Comme celui, peut-être aussi sous l'influence de ma petite Alice, comme celui qui a accès beaucoup plus intensément que plus tard, que nous, adultes en tout cas, au monde sensible. Donc, qui est un être beaucoup plus de sensations, qui perçoit un tas de choses, qui invente tout un tas de choses. Et ce que nous allons un peu perdre, justement, quand nous accéderons à une maîtrise, bien articulée du langage, puis après du discours, etc. Et en un sens, l'analyse, ça a été le cas, en tout cas pour moi. Oui, j'étais professeur pendant quelques années de philosophie, donc assez habile à manier les concepts, à exposer les idées des autres, souvent des grands philosophes, etc. Et puis, j'avais le sentiment que, je faisais convenablement, je crois, mon boulot, mais que j'étais pas dans les mots que je prononçais, que je n'habitais pas ces paroles-là, c'était du discours. Et je crois, il y a eu d'autres raisons, évidemment, qui me sont apparues après, mais que je suis entré en analyse pour, justement, échapper à cet ordre du discours et de la parole maîtrisée. Et de faire entendre, justement, peut-être, sinon cette enfance rêvée, mythique, ce non-parlant, de faire entendre cette voix qui n'était pas encore prise dans les filets du langage.
Vous avez rappelé que dans la psychanalyse, on ne se touche pas. Si on se touche, ça, là, c'est vraiment... ça devient fâcheux. Mais on ne se touche pas, et pourtant vous écrivez un chapitre, un fragment, qui s'appelle « Palper ». J'ai bien aimé. Et alors, vous terminez par « Que fait un psychanalyste ? Il palpe la psyché, le corps souffrant, le corps inquiet, déchiré, parfois en morceaux de la psyché. Psyché est un organe. » Il y a donc, par le langage, une forme, malgré tout, de toucher.
Je crois. L'expression de l'organe psychique revient à peu de reprises. Oui. Elle revient quelquefois chez Freud. Donc l'idée que... une certaine palpe, bon, c'est un peu une métaphore quand même, l'idée que l'analyse palpe la psyché comme le clinicien, mais comme le médecin clinicien d'autrefois, parce que maintenant il n'y en a plus tellement de cliniciens qui prennent le temps de parler, aussi de palper, d'examiner le corps. Tout ça va maintenant beaucoup plus à des analyses de laboratoire, des examens complémentaires, etc. Il me semble, enfin, les médecins, j'espère qu'il y a encore de grands cliniciens, ou même de petits cliniciens, mais c'est un peu, on pourrait parler de sens de mort de la clinique. Donc, l'analyste est un clinicien, à sa manière. Il palpe la psyché. Et ça va peut-être, puisque j'aime bien, vous voyez, faire entendre ma voix, même si elle est un peu éraillée, il y a un petit chapitre qui va un peu avec palper, qui s'appelle « La caresse ». Il va dans le sens de ce que vous dites, à la fois de toucher, mais de toucher autrement, et de parler. Oui, bon, je ne dis pas le début, mais la fin. Quand amateur de concours hippique et habitué des champs de course, je m'étais mis en tête d'apprendre l'équitation, le maître du manège disait à ses élèves, c'était pourtant un ancien adjudant, autoritaire, brutal, qui ne cessait de nous invectiver. « Savez-vous ce qu'attend votre cheval ? Que vous lui caressiez l'encolure et surtout que vous lui parliez. Vos paroles, c'est encore mieux qu'une caresse. L'adjudant stupide, hargneux, court sur pattes, une casquette à carreaux vissée sur son front bas, dont nous n'entendions que des éructations, avait su trouver ces mots-là. » C'est vrai que c'est vrai. Comment ça m'est revenu, ça ? Ça remonte il y a 50, 60 ans, plus. Il avait dit ça, oui. Il faut que vous lui parliez à votre cheval. C'est mieux qu'une caresse. Ça pourrait être une assez bonne définition de notre pratique.
Quand Valéry écrit La Jeune Parc, il le dédie à Gide. Et il écrit « J'ai fait cet exercice que je te dédie ». Et il y a un livre de Ponge qui s'appelle « La fabrication du prêt ». Mmh. Et alors, là, vous allez dans une association ou une librairie qui s'appelle « La fabrique des idées ». Et évidemment, c'est ce terme de « fabrique », vous paraît un peu... vous gêne, quoi. Et finalement, vous vous convertissez en littérature... au terme « fabrique ». Vous pouvez nous en dire plus ?
Ben, je l'ai dit là, non, parce que le mot, c'est venu de ce que... Il m'arrive souvent, parce que quand je travaille comme lecteur, éditeur chez Gallimard, il m'arrive souvent de dire « c'est bien, votre récit, votre roman, c'est bien ficelé, c'est bien raconté, mais c'est fabriqué ». C'est pour moi, c'est péjoratif. Il y a quelque chose que justement, on sent trop la main qui tient tout, qui fabrique son objet, qui veut le maîtriser, et donc laisse sans doute peu de place à l'imagination du lecteur. Voilà. Et puis, je suis invité. C'est une petite association lyonnaise qu'animait le fils, peut-être toujours, de notre ami et confrère Jean-Paul Roland, qui s'appelle La Fabrique des Idées. Donc je commence par raconter ça, que j'aime pas le mot fabrique, puis idée, ça me plaît pas non plus, les idées, bon, ça me paraît, voilà, trop intellectuel, on fabrique pas un écrivain, même un essayiste, il fabrique pas des idées, bon. Et puis je tombe sur, effectivement, je m'en souviens plus très bien, d'un passage de Claude Simon, dans son discours de Suède, quand il a reçu le prix Nobel, où on lui avait objecté, lui, c'était Angelo Rinaldi, qui n'y va jamais de main morte, qui est très dur et qui peut vous démolir un auteur, surtout un auteur très connu comme ça. Il s'était fait un plaisir.
Qui pouvait.
Avant, il s'est adouci.
Maintenant, il est académicien français.
Il a perdu son talent, alors.
Et il n'a plus de tribu.
Il a perdu son talent, parce qu'il était formidable dans la méchanceté, l'acidité. Bon, bref, Simon s'était fait étrier par Angelo Rinaldi, qui disait justement que c'était complètement fabriqué, artificiel, etc. Et là, donc Simon, piqué au vif, dans son discours de Suède, reprend le mot et montre comment un artisan ou même un compositeur, il fabrique avec le plus grand soin son œuvre. Voilà, donc c'est pas... Donc ça réhabilitait à mes yeux le mot de fabriquer, tout en gardant quand même ma réserve sur ce qui peut en effet induire de trop maîtriser concernant la littérature. Moi, je trouve qu'un livre doit laisser beaucoup de place à l'imagination du lecteur, qu'il puisse rêver le livre lui aussi, et non pas qu'on lui donne toutes les clés. Une horloge trop, trop bien fabriquée dont on voit tous les rouages. Bon, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là pour le lecteur. Il n'existe plus, il est nié. Il admire ou non, mais il est passif. Le lecteur doit être actif, quitte à comprendre tout à fait autrement que l'auteur, ce que le livre signifie.
Vous regimbez contre le caractère linéaire de l'écriture.
Oui.
Et vous l'opposez précisément à ce qui se passe lors de la psychanalyse, où la psychanalyse arrive à restituer au temps une certaine épaisseur par la superposition, etc. Et vous dites que le seul écrivain qui est parvenu à rendre de façon tout à fait convaincante et géniale l'épaisseur du temps, c'est Proust. Et comment l'épaisseur du temps chez Proust, est-ce qu'il peut y avoir d'épaisseur du temps dans le discours de l'analysé ou de l'analysant? Comment rapprochez-vous ces deux choses?
Bon, je ne dirais pas que c'est le seul auteur, mais c'est l'exemple le plus évident. Proust, où justement tous les temps se mêlent, enfin, c'est une banalité sans nom ce que je vous dis, mais ça livre sur le temps. C'est pas la recherche du temps perdu, c'est la recherche du temps. Dès l'incipit, hein, longtemps je me suis couché de bonne heure. Je suis souvent dit, si vous voyez, si c'était très... Quand même, c'est... Je pense pas qu'il l'avait médité, cette première phrase. Traduit en français, banal, ce serait quoi? Quand j'étais gosse, mes parents m'envoyaient au litho. Terminé. Il n'y a plus de livres. Voilà. Donc l'épaisseur du temps, elle est sensible sûrement aussi chez Faulkner, par exemple. Mais enfin, beaucoup de romans, en tout cas les romans dits plus traditionnels, même s'ils ne sont pas chronologiques, hein, quand même il y a assez longtemps qu'on ne suit plus un ordre chronologique dans le récit romanesque, gardent quelque chose de linéaire, même si... On peut passer d'un moment à un autre. Il n'y a pas l'épaisseur du temps. Il y a des lignes qui s'entrecroisent, mais il n'y a pas cet entremêlement du temps, ce tissu du temps auquel l'analyse donne, pas toujours, mais donne accès. En tout cas, nous sortons complètement du cadre narratif. C'est pour ça qu'il est tellement impossible et vain de vouloir raconter une analyse, la sienne ou celle d'autrui. Et pour la transmettre, chacun le sait, c'est vraiment pas facile. Alors on peut se contenter de donner quelques fragments particulièrement significatif, mais en même temps, on n'en aura jamais l'épaisseur.
Dans tous les psychanalystes font ça, quand même. Ils écrivent des livres avec des récits de cas.
Ils le font, oui, mais c'est c'est mieux que rien, peut-être, mais c'est un travestissement, comme le récit de rêve est un travestissement, une déformation par rapport au rêve. L'écrivain, l'éditeur, le psychanalyste, tout ça, ça coexiste assez harmonieusement. Donc, voilà, mais c'est donc absolument pas un livre. Tant pis pour ceux qui s'attendaient à trouver un livre de psychanalyse, mais ça ne manque pas. On est surtout, depuis quelque temps, vraiment, on est inondé de livres dits de psychanalyse. Donc, ça peut être une récréation pour vous. Je suis en train de vendre ma salade, excusez-moi, de lire un livre qui n'est pas un livre de psychanalyse.
Moi, j'ai essayé de ne pas vous poser des questions autres que littéraires, mais puisque vous dites qu'on est inondé sous les livres évoquant la psychanalyse, on est surtout inondé sur les livres mettant en cause la psychanalyse et la considérant comme désormais morte, peut-être enterrée. Et Michel Onfray, qui est un grand habitué de cette maison, un grand ami du libraire, du directeur, prépare un ouvrage. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce d'attaque effrénée là contre...
Oui,
alors, je m'adresse aux deux là.
Oui, alors, oui, alors tu peux répondre si tu veux. Tu m'aideras.
Est-ce que vous êtes ringards tous les deux et
Peut-être. Mais je veux bien qu'on soit des dinosaures. Après tout, ils ont eu une longue vie quand même. C'est quand même. On se demande comment elle tient encore debout, cette vieille psychanalyse, ou cette jeune pour nous, cette jeune science, comme disait Freud. Toujours jeune. Ça fait donc plus d'un siècle, non seulement le début de Freud, mais après, c'est venu de tout le temps. Donc, et en plus, je me demande quand même, c'est comme s'il n'y avait pas, quand même, je pense au livre de Michel Onfray, 600 pages. Donc c'est un livre documenté, hein, ce n'est pas un pamphlet documenté, mais à mon avis, enfin, j'ai feuilleté sur épreuve, on voulait même que j'y réponde, j'ai refusé. C'est l'ennemi public numéro un, la psychanalyse. Ça mérite qu'on écrive 600 pages pour dire que Freud n'a fait que, je résume grossièrement, que projeter ses propres symptômes, ses propres fantasmes pour leur donner une valeur universelle, hein, que c'est lui qui voulait tuer son père et aimer sa mère, là, il a voulu que ça soit le monde entier. C'est parce que c'est à la fois très documenté, très intelligent, mais l'argumentation est de ce niveau-là, hein. Bon, dit proie, quand même, c'est pas Freud qui l'a inventé, bon, passons. Donc pourquoi, ça je me demande encore, pourquoi cet acharnement à détruire, si c'est vraiment si nul que ça, la psychanalyse, elle va se dissoudre d'elle-même, elle va disparaître, il n'y a pas besoin de donner des coups et des coups, d'écrire 600 pages, et de faire tous ses pamphlets, ses critiques, qu'on la laisse en paix, qu'on la laisse vieillir si on veut, tranquillement, sans s'acharner à lui donner des coups. Quel intérêt ça a, bon. Ça n'a pas, c'est quand même pas encore mieux. Il y a des problèmes plus graves à résoudre dans le monde, il me semble, que de savoir si la psychanalyse guérit ou pas, ou guérit mal, ou s'il y a d'autres techniques qui sont meilleures. On s'en fout. Occupez-vous d'autre chose. C'est plus grave. Je vais tomber dans le pathétique, mais enfin, vraiment, c'est un peu lamentable de voir tout ce talent aussi, quelquefois. Parce qu'il y a des trucs vraiment assez ignobles, comme le livre noir. Là. Bon. Mmh. Mais Michel Onfray est un type intelligent, talentueux, cultivé, qui connaît. Même, apparemment, il a beaucoup lu. Et tout ça, pourquoi ?
Michel Onfray, avant de s'attaquer à la psychanalyse, s'est beaucoup attaqué au christianisme. Et vous avez tout à l'heure évoqué votre lointaine éducation chrétienne. Et vous citez Lacan, « Notre existence entre la vie et la mort. Ou mieux, est-ce ce que voulait dire Lacan ? Entre deux morts, le néant d'avant, le néant d'après. » Est-ce que vous êtes assuré de ça?
Oui.
Oui.
En ce qui me concerne.
Oui, en ce qui me concerne. Vous, oui, oui, en ce qui me concerne.
Au paradis et tout ce que vous voulez, mais moi, je sais qu'avant, c'était le néant. Ça, on est tous un peu d'accord là-dessus, quand même. Oui. Bon. Enfin, le néant pour nous. Et que, voilà. Mais la religion. Mais la psychanalyse n'est pas une religion. Il y en a qui ont tendance à en faire une religion, justement. On peut dire ça. Où le maître a dit, Dieu a dit ça. Mais moi, je ne suis pas devenu psychanalyste pour adhérer à une religion.
Je ne sais pas, moi, si on en parle, parce que c'est un si beau passage du livre. Encore une fois, je suis paralysé parce qu'il a été dit. On ne va pas tout révéler du livre. Mais quand même, la statue de Giacometti à la Galerie Mag, on pourrait l'évoquer pour terminer, non?
Ouais, il faut que je lise, parce que ça ne peut pas se résumer.
Ami m'a parlé.
Voilà. Oui, parce que là-avant, donc, je reviens à Nice, etc., et je ne retrouve rien, tout est défiguré, etc. À quelques centaines de mètres de Saint-Paul-de-Vence, où je répugne à entrer par refus, de me fondre dans la masse touristique, la Fondation MAC peut fréquenter ce jour-là, un lieu magique où se réconcilient l'art et la nature, civilisée, où voisinent les pins, les peintres et les sculpteurs, Calder et Miro, ses deux enfants joueurs, manuscrits de poètes et de pierres, purs dessins de Matisse, quelques traits lui suffisent pour donner à voir un visage, et dessins toujours repris parce que inachevables de Giacometti. On dirait que toutes les formes que peut prendre le monde sont ici rassemblées, toutes singulières, inventives, sans jamais se contredire. Un ami m'a parlé d'une statue de Giacometti. Je l'avais vue autrefois sans m'en souvenir. Elle a pour titre l'objet invisible. Je tombe en arrêt devant cette femme, longiligne, assise, les genoux pliés, dont la petite tête pourrait provenir de l'ancienne Égypte. Mais l'énigme n'est pas dans ce visage. Les avant-bras s'apprêtent à se croiser, ou les mains à se rejoindre, mais ses mains restent à distance l'une de l'autre. Entre elles, rien. Un vide. Non, pas un vide, car assurément, elles tiennent quelque chose. Un objet que le spectateur imagine est infiniment précieux, fragile. Il ne faut pas qu'il échappe à ses mains, à ses doigts effilés, presque des griffes. Il ne faut pas qu'il casse en tombant. C'est l'objet invisible, et je ne vois que lui. C'est un objet sans figure. Il ne saurait être défiguré. Que tout, avant, je me plaignais que toute la région était défigurée, c'est ce mot qu'il menait. Je ne souhaite pas lui donner un nom, dire qu'il représenterait l'objet d'un désir qui ne pourrait jamais être assouvi. Il n'est rien d'autre que ce creux, cette absence qui est en chacun de nous. Alors tout s'éclaire en moi. À la faveur de ce lieu, qui, bien qu'il n'abrite que des œuvres de notre temps, a quelque chose d'intemporel, je comprends que ce que je cherche à tenir entre mes mains, sans parvenir à le saisir. C'est mon objet invisible, précieux, fragile, qu'à aucun prix je ne dois laisser tomber. Ce n'est ni le paysage d'avant, ni celui de maintenant, ni mon passé, ni mon présent, mais c'est insaisissable que pourtant je tiens et qui me tient.
Voilà, c'est un très beau passage et qui rejoint vraiment ce que vous disiez sur les qualités littéraires du livre, et en même temps qui s'appuie sur une expérience qui est celle, en effet, d'un spécialiste de la psyché.
D'un palpeur
de la psyché. merci, JB Bontalis. Merci, mesdames et messieurs. Et on l'applaudit, allez.